Bienvenue, c'est Carnet Solidaire, l'émission de l'association Ailleurs Ici Même, rendez-vous mensuel dédié aux artisans du lien, à toutes celles et ceux, militants du quotidien, qui s'attaquent aux maux de notre société et sont porteurs d'initiatives positives. Et pour cette première émission de Carnet Solidaire, que j'aurai le plaisir d'animer chaque mois sur l'antenne de CFM Radio, je vous dis donc bonjour pour ce nouveau rendez-vous, un rendez-vous à retrouver aussi en podcast sur le site cfmradio.fr. Carnet Solidaire, c'est la parole donnée aux acteurs de la solidarité de Villefranche-de-Rouergue, de l'Ouest Aveyron et au-delà. Une parole donnée à tous ceux qui tissent les fils du vivre ensemble pour une société plus juste, des acteurs qui combattent les discriminations, qui sont attentifs aux personnes les plus fragiles. Je l'animerai tous les mois au nom de l'association de rencontre des Villefranchois des cultures étrangères ailleurs ici même, dont la devise pourrait être « mieux connaître l'autre pour mieux vivre ensemble », mais je le ferai en lien étroit avec toutes les associations de solidarité du bassin villefranchois. Voilà, donc merci à CFM Radio de donner la parole à ces acteurs de solidarité pour un rendez-vous que j'espère régulier et qui va attirer votre attention. Donc pour commencer, nous avons rendez-vous en ce mois de rentrée avec l'une des plus anciennes associations de solidarité française, même si on la connaît surtout pour ses combats en faveur du respect et de l'amélioration du droit, j'ai nommé la Ligue des droits de l'homme. Donc avec nous, Diane Gastelu, qui est présidente de la section Villefranche de Casseville de la Ligue des droits de l'homme.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour Diane. Et à ses côtés, Dominique Ladé, qui est trésorier de cette même section.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. J'aurais quelques questions, d'abord pour faire connaissance avec la Ligue et avec vous-même. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, la Ligue des droits de l'homme, c'est quoi ? Quand et pourquoi a-t-elle été créée ? Quel est son objet ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est une, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une très vieille association puisqu'elle a été fondée en 1898. Elle a été fondée en 1898 par ce qu'on n'appelait pas encore des intellectuels, mais c'était le cas, des avocats notamment, des journalistes, qui réagissaient à l'affaire Dreyfus. Pour ceux qui ont oublié ce que c'était que l'affaire Dreyfus, parce qu'ils ont vu ça au lycée, mais ça commence à dater, le capitaine Dreyfus était un militaire juif et s'est trouvé accusé de haute trahison parce qu'on avait trouvé des documents qui avaient été divulgués à l'ennemi prussien. Ces documents avaient été divulgués par quelqu'un qui n'était pas juif et qui n'était pas lui. Mais il s'est trouvé coupable idéal, puisque, étant juif, il ne pouvait être que le coupable de cette trahison. Il a donc été condamné, dégradé, envoyé au bagne, ou plus exactement en exil en Guyane, dans des conditions terribles. Et peut-être que nos auditeurs se souviendront d'Émile Zola et de son article « J'accuse », où Émile Zola publiait les éléments qui a crédité l'innocence du capitaine Dreyfus. Cette affaire a duré très longtemps et elle a donné en lieu en France à un déchaînement de haine antisémite qui est à l'origine de la création de la Ligue des droits de l'homme.
D'accord. Et pour chacun de vous, peut-être, qu'est-ce qui vous a incité à rejoindre les rangs de la Ligue des droits de l'homme ? Dominique, peut-être ?
Eh bien, moi, il y a pas mal d'années, puisque c'était autour des années 2000, que j'ai intégré la section de Villefranche-de-Rouergue. Et pourquoi ? Parce que il y avait un débat à ce moment-là sur le port du voile. Mm-hmm. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau.
Hein. Oui.
Voilà. Et à Villefranche-de-Rouergue, la section de Villefranche-de-Rouergue avait invité le président de la Ligue des droits de l'homme de l'époque, Michel Toubiana, à venir. Michel Toubiana donc est venu, et ce que j'ai entendu m'a beaucoup plu. Et par ailleurs, j'avais travaillé, mais professionnellement, avec le président de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Rouergue à l'époque, et je trouvais que c'était quelqu'un de juste et d'engagé. Voilà. Et pourquoi j'ai intégré, là ? C'est la position de la Ligue autour du voile, de Michel Toubiana en particulier autour du voile, qui me plaisait beaucoup, qui était un espace de liberté. La laïcité, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est un espace de liberté. Voilà, pour faire très vite. Et ça a provoqué dans la Ligue des droits de l'homme des départs et des rentrées. Voilà.
Tu peux préciser peut-être cette position par rapport au voile qui est redevenu très récemment d'actualité dans la part de certains politiques.
La position de Michel Toubiana à l'époque, c'était de dire d'abord il doit y avoir dialogue avant toute mesure. Il doit y avoir dialogue. Je ne veux pas rappeler l'histoire parce que sinon
on y sera encore dessus. À la fin de l'émission.
Oui. Voilà. Et c'était de dire la liberté de chacun existe. La laïcité, c'est une loi de liberté. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. De croire en un Dieu ou de ne pas y croire, même d'être athée, agnostique. Et le voile, qu'il soit interdit dans un bâtiment public quand on est fonctionnaire de l'État ou du public, ça semble logique, puisque c'est un État laïque. Mais par contre, que ça s'impose obligatoirement à tous, non. Difficulté à l'école, c'est un peu différent. Et donc c'est là que ça achoppe, puisque normalement l'école est un lieu d'enseignement, l'école publique est un lieu d'enseignement laïque. Mmh. Et donc on n'a pas à mettre en avant une croyance ou une autre. Donc voilà, la position de la Ligue était justement de discuter d'abord, d'essayer de convaincre, et puis après, on voyait.
Et ce qui t'a paru particulièrement intéressant.
Voilà.
Pourquoi tu l'as rejoint. Et pour toi, Diane, peut-être, en quelques mots,
comment
s'est passée la rencontre?
La rencontre avec la LDH, ce sont des amis. Ce sont des amis. Alors, je viens pas de rien. J'ai débarqué à la LDH il y a relativement peu d'années. Mais je suis quelqu'un qui a toujours, qui a toujours eu chevillé au corps le sens de la justice et la haine de l'injustice. Par mon parcours de vie, j'ai été très tôt sensibilisée à la question du racisme, qui se borne pas à être une détestation de l'autre, mais qui est tout un système où on va l'inférioriser, où on va lui rappeler sans cesse sa couleur de peau, son origine. J'ai été sensibilisée à la question des discriminations à l'égard des femmes aussi, j'ai milité dans d'autres organisations pendant très très longtemps, et puis il y a quelques années, des amis, Dominique notamment, mais pas seulement, mais des amis m'ont dit « Mais tu sais qu'il y a une section de la LDH à Villefranche et qu'elle a besoin de monde ?» Et j'ai dit « Bah oui, ah ben s'il y a une section et qu'elle a besoin de monde, j'en suis. »
Très bien.
Tout simplement.
Parfait. Et alors, qu'est-ce que vous y faites dans cette section? Comment les choses se passent? Quels sont quel est un peu le quotidien de la Ligue? Et peut-être, très rapidement, ses projets pour l'année. Je sais qu'on va revenir sur... des points un petit peu particuliers, mais de façon générale, qu'est-ce qui se passe à la Ligue, section Villefranche de Casseville?
Alors, pour faire très rapidement, on a une réunion une fois par mois. Oui. Généralement, le premier mercredi du mois, à 20h30 maintenant, dans la salle du Sénéchal, puisqu'il n'y a pas d'autre salle de libre pour l'instant, en attendant qu'on ait mieux.
À Villefranche, donc.
À Villefranche de Rouergue. Mmh. Voilà, et là, on fait le point de ce qui s'est fait, de ce qu'il y a à faire.
Alors, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Voilà.
Oui. Alors,
il y a plein de choses à
c'est
faire.
C'est quoi vos sujets, en fait?
Alors, ouais. nos sujets, ben, c'est toujours ces trois axes qui sont autour des droits de l'homme, hein, autour des libertés. Le premier axe, c'est de défendre les personnes quand il y en a besoin. Ouais. Le deuxième axe, c'est de travailler auprès des pouvoirs publics pour faire prévaloir les principes des droits de l'homme et les principes des droits fondamentaux. Et puis le troisième axe, c'est la sensibilisation. Et une petite section comme la nôtre, au niveau de Villefranche, est très axée sur la sensibilisation, parce que nos possibilités d'intervention auprès des pouvoirs publics sont relativement minimes. Mmh. En revanche, la sensibilisation, on peut la mener, et on la mène en direction de publics différents, comme le grand public en général, au moyen de ciné-débats, de café-débats, et auprès des enfants et des adolescents, donc du public jeune, par le biais d'interventions en milieu scolaire.
D'accord. Vous pouvez nous citer des exemples d'événements que vous avez organisés, type d'événements là dans les mois passés, pour qu'on ait une petite idée de ce que ça peut représenter.
Parler des débats, par exemple des cafés-débats.
Cafés-débats, hein, d'accord.
Qui ont eu lieu autour de la justice. Oui. Autour des droits, généralement. Oui. Et il y en a un très bientôt,
Il y en a un très bientôt autour justement des droits fondamentaux. Ouais. La notion de droits fondamentaux, qu'est-ce que c'est? En quoi c'est essentiel? Ouais. Puisque maintenant on parle moins de droits de l'homme que de droits fondamentaux, parce que ça s'est un petit peu élargi, heureusement. Et voilà, donc le café débat va avoir lieu jeudi 10 septembre. Pour ceux qui nous écoutent.
Dans très peu de temps après l'émission, moi.
Dans très peu de temps après la première diffusion de cette émission, et pour ceux qui nous écoutent en rediff, eh bien, vous avez manqué.
Voilà. Donc, on peut peut-être rappeler, donner des éléments précis. Donc, jeudi 10, ça se
jeudi
passe
10
où,
à 18h30 au Café du Saint-Jean, à Villefranche-de-Rouergue. Ça dure environ une heure et demie, deux heures. Deux heures maximum pour ne pas s'éterniser à refaire le monde de manière vide. L'objectif est quand même d'avancer. On a un intervenant qui est Jean-François Mignard. Jean-François Mignard est ancien secrétaire général de la LDH au niveau national, a eu d'importantes responsabilités régionales. C'est aussi un éducateur, c'est aussi quelqu'un qui a une expérience de la formation et c'est toujours un militant des droits.
Très bien. Donc rendez-vous jeudi 10 au Saint-Jean, au café.
À 18h30 au café du Saint-Jean.
Café débat, ça veut dire qu'on... On paye sa consommation et on assiste au débat.
C'est ça.
Voilà, c'est la formule.
C'est ça. On paye sa consommation, on se met autour d'une table, on est 20, 25, autour des, ou 30, ou il est arrivé qu'on soit même 35, autour d'un des, on met les tables en rond, et puis, notre invité commence par un petit exposé pour situer le sujet. Et ensuite, c'est, questions-réponses libres. Échange.
Dernière question de ce tour d'horizon très rapide général. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle année sur le plan des droits fondamentaux, justement, la façon dont ces droits sont abordés, peut-être dans le champ politique, là, on a une campagne présidentielle qui est en train de démarrer. Comment voyez-vous les choses du point de vue de votre engagement à la Ligue des droits de l'homme? Ah, je vous prends peut-être un peu au dépourvu, mais...
Oui. mais on a des choses à dire, mais on a peur d'être un peu long.
Juste état d'esprit, voilà, ça peut se résumer en...
Inquiet, vigilant.
Voilà, quelques adjectifs. Inquiet, vigilant.
Inquiet, vigilant, on a l'impression, enfin j'ai personnellement l'impression, mais je pense que je ne suis pas la seule, que beaucoup de politiciens actuellement sont partis dans une surenchère contre les droits humains.
Oui.
Et que c'est une sorte de concours Lépine de l'atteinte aux droits de l'homme qui est en train de se dérouler. Et c'est extrêmement inquiétant parce que au-delà du fait qu'ils ne vont pas pouvoir mettre en œuvre les mesures qu'ils annoncent parce qu'elles sont juste anticonstitutionnelles, qu'elles seraient... Oui. Voilà. Au-delà de ça, ça fait passer dans l'esprit des gens l'idée que c'est possible et que ça pourrait être justifié de pratiquer la discrimination. Ça, c'est quelque chose qui
vous
inquiète beaucoup.
D'où l'appel à la vigilance. Dominique, opine du chef.
J'opine du chef et je rajouterai simplement le respect de l'autre.
Le respect de l'autre.
Et dans une campagne électorale, c'est important. On le voit dans les violences qu'on voit sortir à droite et à gauche. Après les municipales, on l'a vu.
Oui.
Mais on va le voir là aussi. Et on le voit déjà dans la campagne.
Donc inquiétude, vigilance et appel au respect de l'autre. Oui. Merci pour ce premier tour d'horizon. On va faire une pause musicale avec Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Nous sommes avec, pour cette première émission de Carnet solidaire, l'émission des solidarités de CFM Radio, nous sommes aujourd'hui avec la Ligue des droits de l'homme, section Villefranche de Casseville, avec Dominique Ladé et Diane Gastelu. Et nous allons maintenant faire un focus sur une action que la section va entreprendre cette année. Donc je cite des propos de Françoise Dumont, la présidente d'honneur de la LDH. Combien de temps Robinson Crusoe aurait-il survécu seul sur son île ? L'histoire ne le dit pas. Mais elle nous montre que l'arrivée de vendredi changea sa vie. Bien sûr, il est peu probable que certaines ou certains d'entre nous se soient retrouvés dans une situation aussi dramatique que les deux héros de Daniel Defoe. Mais une chose est sûre, ensemble, ils purent mieux faire face aux difficultés quotidiennes et chacun des deux apporta beaucoup à l'autre. Voilà, pour introduire une action que donc la Ligue relaie une nouvelle fois à Villefranche cette année, qui peut être résumée par cette phrase du poète japonais Satoru, je vous ferai grâce de son prénom que j'ai un peu de mal à prononcer. Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, mais ensemble, nous sommes un océan. Donc cette opération s'appelle « Ensemble, on devient ». Diane, Dominique, pouvez-vous nous la présenter ? De quoi s'agit-il ?
Alors d'abord, c'est un concours national qui est dans sa 35e édition, qui s'appelle « Écrit pour la fraternité ». Voilà. Et chaque année, donc, la LDH propose un concours avec, sur un thème alors, aux écoles, primaires, secondaires,
centres de loisirs, toute structure qui accueille des enfants.
Voilà, établissements spécialisés, tout, avec des catégories, j'allais dire, pour le classement du jury, avec des catégories différentes selon le niveau, selon... Voilà.
Les âges aussi, pour ne pas mettre en concurrence des lycéens avec des enfants de maternelle.
Oui, on peut comprendre, oui. Oui.
D'accord. Et alors c'est à la fois individuel si on le souhaite, ou collectif.
D'accord.
Et ce concours est lancé, donc cette année, c'est ce que nous avons dit là, Ensemble on devient.
Donc chaque année, en fait, il y a un thème différent. Et cette année, le thème, c'est « Ensemble, on devient », trois points de suspension. Manière de dire, ben oui, tout seul, on est bien, mais ensemble, on devient.
C'est un peu à contre-courant de certains discours et postures dominantes aujourd'hui, non ? Vous n'avez pas l'impression ?
Un peu beaucoup, oui.
Oui ?
Un peu beaucoup.
Ouais, c'est la digue.
Ouais. On est dans une émission qui s'appelle Carnet solidaire.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et justement, je crois que ce thème sur le fait de ce qu'on fait ensemble, c'est vraiment l'illustration du principe de solidarité, ouais, et de l'intérêt de la solidarité.
C'est pour ça que ce concours a retenu votre attention localement.
Alors, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais il y a des années qu'on avait arrêté parce que par manque de moyens humains.
Oui, oui. Voilà. Et alors, vous avez recommencé et comment
on a recommencé parce qu'on a été appelé au secours par une école.
Au secours, oui.
Extérieure. Mmh. La section desquelles il dépendait n'était plus vivante. Elle existe toujours, mais pas vivante. Et donc, elle avait besoin de faire qu'on fasse remonter ses... Il se trouve qu'on connaissait bien l'institutrice.
Oui. C'est la fille de l'un d'entre nous.
D'accord. Ça peut aider, effectivement.
Voilà.
Et comment ça s'est passé alors,
alors nous, on est allé remettre les prix, d'ailleurs.
Oui.
Trois de la Ligue de Villefranche ont été remettre un prix à cette classe. Oui. D'abord parce qu'elle avait participé, c'était notre démarche. Et puis en plus...
Parce qu'elle avait gagné.
En plus, elle a gagné.
Ah, elle a gagné. Alors
pour la quatrième fois, quand même.
Ah oui, d'accord.
Mais pas dans les mêmes...
Sur le même thème. Voilà. Pour remettre les choses peut-être dans l'ordre chronologique, en gros, donc, cette institutrice participe depuis des années au concours des écrits pour la fraternité avec sa classe, qui est une classe mixée avec CM1, CM2. Elle a déjà gagné le prix plusieurs fois. Qu'elle a gagné 4 fois le prix. Enfin, bon, elle va finir par être hors concours si ça continue. Et donc, elle le faisait avec le soutien d'une section de la LDH qui, malheureusement, a disparu entre-temps. Et c'est pour ça qu'elle nous a appelés au secours. Et ça nous a redonné l'envie de porter ce concours des écrits de la fraternité auprès des enseignants de notre secteur.
Surtout qu'on peut dire que cette institutrice nous a... montrer et démontrer tout le bien, non seulement qu'elle pensait sur ce concours, mais ça lui a permis d'organiser, au niveau pédagogique, le travail avec ses enfants. Et on l'a vu de nos yeux. C'était pas une école particulièrement facile.
Non, mais c'était un travail très, 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 vraiment épatant.
Ah oui. Sur quel plan vous pouvez être précis sur ce que ça a pu apporter aux élèves?
Oui, justement, oui. Sur le principe de coopération, la coopération entre les enfants, la prise de responsabilité, la prise d'initiative qui était manifeste. On a vu une classe d'enfants qui n'était pas forcément facile au départ, qui n'était pas forcément des enfants de classe privilégiée, mais qui avaient manifestement appris qui sont allés demander au maire de la commune de l'interviewer, qui ont interviewé, donc qui ont préparé leur interview, qui ont réalisé l'interview, qui ont coopéré pour réaliser, c'était sous la forme d'une vidéo, qui ont travaillé sur les concepts. Là, il s'agissait l'année dernière du principe le thème, c'était faire vivre la démocratie. C'était pas simple pour des enfants.
À l'école.
En effet, oui.
Faire vivre la démocratie à l'école.
En CM1, CM2.
Hein, en CM1, CM2. C'était pas un concept très simple. Et ils se sont vraiment approprié ça. Donc, ça a permis à l'institutrice de travailler sur plein de choses, à la fois sur le civisme, mais sur l'expression française, et sur énormément de choses. Et les enfants nous ont raconté comment ils s'y sont pris, et on a été vraiment, enfin moi j'étais bluffé par leur maturité, la maturité que ça leur a apporté.
Je rajouterais simplement que ça a fait aussi un effet auprès de la municipalité, puisque le maire a dit, mais attendez, on va créer
c'est formidable.
Un conseil municipal d'enfants.
D'accord, suite à cette initiative, d'accord, oui.
Excellente initiative, oui. et tout ce qui peut citer les enfants à prendre leurs responsabilités de futurs citoyens, c'est quelque chose qui nous va très bien. Mmh. Donc on n'a pas été les seuls à être bluffés, puisque le maire de la commune a trouvé que c'était vraiment impressionnant, et ça lui a donné envie, effectivement, de concrétiser quelque chose qui était peut-être en germe. Mais qu'il n'avait pas vraiment mené à bien, en se disant est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup. Et il s'était rendu compte que ouais, ces gamins-là, ils pouvaient.
C'est ça. Donc cette année, vous allez renouveler l'expérience. Vous lancez un appel aux écoles. Alors, qui est destinataire, concrètement? À qui lancez-vous cet appel?
Tous les établissements scolaires, de la petite section de maternelle au lycée, les établissements spécialisés d'éducation, d'enseignement spécialisé, les centres de loisirs, éventuellement, peuvent participer. Ce qu'il faut, c'est une personne motivée qui va porter le projet. Uh-huh. Nous, on va la soutenir. Dans ce projet, on peut intervenir dans sa classe pour présenter le sujet. On peut suivre les travaux au fur et à mesure de l'avancement. Et donc, il faut une personne qui ait envie de faire travailler les enfants dont il ou elle a la charge sur ce sujet-là et qui en voit l'intérêt.
D'accord. Et on vous contacte à quelles coordonnées?
Alors,
un téléphone, un email.
Villefranche de Rouergue en un seul mot @ldh-du6france.org ou le numéro de téléphone que Dominique va vous donner.
Pour cette opération-là, 06 84 81 76 80.
Voilà, toutes ces coordonnées, nous allons les retrouver de toute façon sur la page de l'émission. Et invitation, donc appel, vous lancez un appel à tous ceux intéressés par l'opération de vous rejoindre.
À tous les enseignants, à tous les éducateurs qui seraient intéressés.
Public ou privé.
Voilà, sans restriction.
Sans distinction.
Sans distinction.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. OGMO, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes mots. Si parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de lait comme le feraient les chats, avant de donner ma langue, je pourlèche cette fois.
Troisième partie de notre émission Carnet solidaire, la première du genre ce mois-ci avec la Ligue des droits de l'homme, LDH, section Villefranche de Casseville. Nous allons cette fois-ci parler d'un sigle qui fait parfois l'actualité, OQTF. OQTF, mais qu'est-ce que c'est ? Donc la Ligue des droits de l'homme est en train d'écrire ou vient d'écrire un texte de référence sur le sujet. Vous allez nous en parler. Et moi j'aimerais bien, et sans doute nos auditeurs aimeraient aussi savoir de quoi ils retournent quand on emploie ce sigle souvent associé à la question des migrations, de certaines situations de personnes migrantes au regard des migrations. Ce sigle est souvent employé quand il est question de migration, mais au fond rarement explicité. Il peut susciter la polémique. Certains disent vouloir exécuter les OQTF, mais de quoi parle-t-on ? D'autres discours sont plus mesurés, plus empreints peut-être de fraternité, de solidarité. Mais d'abord, sur un plan très factuel, pouvez-vous nous dire de quoi il retourne ? OQTF, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ?
Obligation de quitter le territoire français.
Alors, ça s'applique à quelle situation ?
Ouais. Alors, ça s'adresse à toute personne qui est étranger non originaire d'un pays de la Communauté européenne ou de l'Union européenne et qui est circonstanciellement sans titre de séjour à un moment donné. Alors, on entend beaucoup, moi les OQTF, je te les reconduis tous nés directs. D'abord, une personne n'est pas un OQTF, pas plus que je ne suis un retrait de permis si je me fais retirer mon permis. Ça ne m'est pas arrivé, hein, mais... Non. Mais on ne désigne pas les gens par un document administratif, ouais, qui les concerne et par une décision administrative. J'insiste sur le fait que c'est une décision administrative qui est prise par un préfet.
C'est-à-dire qu'aucun juge n'a été saisi.
D'accord.
Ça n'est pas une condamnation. C'est une décision administrative. Et la première contre-vérité qu'on entend, ou la première idée reçue qu'on entend sur les personnes sous OQTF, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, c'est « Ouais, mais bon, s'ils ont fait quelque chose de mal, c'est normal qu'on les vire. » Sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. On va prendre quelques exemples.
Je rajouterai que seulement 2% des OQTF sont prises pour des délinquants, à cause de cet acte de délinquant. 2%.
D'accord.
Ça veut dire que 98% des personnes qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'ont rien à se reprocher. N'ont rien à se reprocher, hormis d'être sans papier à un moment donné, mais cette situation de sans papier peut résulter tout simplement de la décision de la préfecture. Et je vais citer un exemple récent, très récent, qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine. Une jeune femme de nationalité algérienne, arrivée en France à l'âge de 15 ans avec ses parents, scolarisée en France, une licence de psychologie. Elle réussit son concours d'entrée en études de médecine, elle est 96e sur 1000 personnes. Elle fait 4 ans de médecine, et puis au moment du renouvellement de son titre de séjour, le préfet dit non. Non, en fait, on va pas lui renouveler son titre de séjour, et donc on va prendre une OQTF. Cette personne, cette jeune femme, avait en outre signé avec la région dont elle fait partie un engagement de servir pendant 5 ans à l'issue de son diplôme. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une démarche, une personne qui est dans une situation d'insertion parfaite, qui est en train d'acquérir une qualification dont on a besoin. On sait qu'en France, on manque de médecins de manière cruelle.
Elle va prendre la place de personne.
Elle va prendre la place de personne, c'est clair. Elle va pas prendre le boulot de quelqu'un. On manque terriblement de médecins. Et cette personne-là, pour une raison qu'on ignore, parce que la décision n'a pas été motivée, tout à coup, on décide qu'elle n'a plus le droit d'être en France. Elle a 26 ans, elle est en France depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait 11 ans qu'elle est chez nous. Pourquoi, tout à coup, doit-elle repartir en Algérie ? Mystère et boule de gomme, on n'en sait rien du tout. Et c'est quelque chose qui apparaît à la fois injuste pour cette personne, qui n'a rien à se reprocher, qui n'a évidemment pas commis de délit, ni quoi que ce soit, mais qui, du fait qu'on lui refuse son titre de séjour, se retrouve, du jour au lendemain, en situation irrégulière. Donc, fait l'objet d'une OQTF. Donc, cette personne-là, la LDH a pris sa défense, a écrit au préfet, il y a eu une mobilisation importante, y compris de la région en l'occurrence, qui a fait signer un accord avec cette personne-là, et la décision du préfet a été rapportée, c'est-à-dire qu'en fait il lui a attribué un nouveau titre de séjour. Donc ça, c'est aussi ce qu'on fait, nous, par rapport aux OQTF. Donc là, ça, je crois que cet exemple illustre bien à la fois le côté parfaitement arbitraire qu'il peut y avoir derrière une OQTF, l'absence de motivation, l'absence de cause à une OQTF, j'allais dire, il faut faire des chiffres. La décision administrative qui semble parfaitement infondée, et puis la possibilité aussi, en se battant, d'obtenir des choses.
Je rajouterais que dans cet exemple-là, cette jeune était en fac de médecine, elle souhaitait faire cardiologie, si j'ai bon souvenir. Or, on en manque.
On en manque,
cruellement.
Y compris à Villefranche, où
par exemple.
Voilà, il y a très peu de cardiologues.
Maintenant, à Villefranche, il faut aller à Rodez pour trouver un cardiologue. Ouais. Donc oui.
On pourrait rajouter deux autres exemples. Un villefranchois et l'autre Millavoie, donc c'est de Millau, près de chez nous, de deux jeunes qui étaient en apprentissage. En apprentissage de façon normale, avec le... Et les deux, alors qu'ils allaient passer le CAP, ont été obligés de quitter le territoire français. Les patrons, les deux patrons, se sont mobilisés. Et puis, je peux vous dire sérieusement, il y en a un qui a fait la grève de la faim, et l'autre qui est intervenu très violemment, très vivement, pardon.
Mais de pas façon virulente.
C'est pas violent. Très vivement, au niveau de la préfecture. Les choses se sont arrangées, les deux ont pu finir leur apprentissage. Mais rien ne prévoit l'avenir après.
Et les exemples ne manquent pas. Non. Ce genre d'exemple avec des jeunes qui sont entrés souvent comme mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qui sont arrivés en France en ayant soit quitté leurs parents, soit perdu leurs parents en route, parce que ça arrive, qui arrivent donc mineurs non accompagnés, ils sont protégés jusqu'à leur majorité par la législation internationale. Mais le jour où ils deviennent majeurs, eh bien tout à coup, un préfet peut décider que on n'en a pas besoin. Et très souvent, ces jeunes gens sont apprentis dans des métiers où on manque terriblement de main-d'œuvre, des métiers du bâtiment, des métiers de bouche. J'ai le souvenir d'un boulanger.
Oui.
Des métiers où on manque énormément de personnel. Et peu importe, j'allais dire, ces décisions sont souvent prises sans consultation de la situation, sans consultation du dossier, sans prendre d'informations sur la chose. C'est un trait de plume qui fait que tout à coup on va expédier la personne soit là où elle vient, soit pas forcément, parce que on a le cas aussi par exemple des personnes afghanes.
C'est ça.
Des personnes afghanes qui ont une OQTF sans pays de destination, parce que effectivement la France ne reconnaît pas le régime des talibans, donc on peut pas
renvoyer
quelqu'un en Afghanistan, et donc on va prendre une OQTF vis-à-vis d'une personne de nationalité afghane. Mais cette personne ne peut pas avoir la protection internationale parce que le pays n'est plus en guerre. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique des clandestins. On oblige ces personnes à rentrer dans la clandestinité et à être dans une situation de précarité.
Ça, c'est un des gros aspects que la Ligue des droits de l'homme fait ressortir.
Oui.
C'est que ces OQTF, la France, quand même, il faut le noter, est le pays en Europe où il y a le plus de décisions de ce genre-là. Et les chiffres, bon, on pourrait les donner tout à l'heure, mais c'est assez impressionnant. Et malgré tout, c'est d'autant plus... Excusez-moi du terme, mais j'en ai pas de mieux que ça, c'est débile, parce qu'elles ne sont pas exécutées, elles ne se sont pas exécutables pour la plupart.
Oui, c'est-à-dire que dans une très grande majorité des cas, les gens ne rentreront pas dans leur pays d'origine.
Voilà. Non, mais il faut faire de l'affichage.
Voilà.
Il faut faire de l'affichage et dire, on est ferme. Oui. On est ferme, on a pris des décisions d'OQTF. Alors là, j'ai retrouvé le chiffre. Mm-hmm. En 2024, pas moins de 140 000 arrêtés portant obligation de quitter le territoire de français ont été notifiés. 140 000. C'est un truc qui est, c'est un chiffre qui est sans commune mesure avec ce qui se pratique, y compris en Allemagne. Si je prends l'Allemagne, c'est 4 fois plus que l'Allemagne. Fois plus que l'Allemagne, en sachant que la population allemande est beaucoup plus importante que la population française et que l'Allemagne est un pays d'immigration important. Donc dire, on prend 140 000 obligations de quitter le territoire français, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait très bien qu'on ne va pas les exécuter toutes. On sait très bien que pour des raisons X, Y, on ne va pas pouvoir expédier quelqu'un parce qu'il a des enfants mineurs qui sont en France, parce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays sous peine d'y mourir. Ça veut dire qu'on fait de l'affichage, mais en même temps, ça veut dire qu'on oblige ces personnes à une vie... Oui. De dissimulation permanente, à gagner leur vie, forcément au noir, puisqu'ils peuvent pas travailler légalement, à être à la merci de n'importe quelle autre injustice, puisqu'elles vont pas pouvoir se défendre.
Et alors, je rajouterai à ça que pas mal de ces personnes travaillent et payent
des impôts,
malgré tout,
des loyers,
tout en étant en situation irrégulière.
Voilà. Totalement.
D'accord.
Ils payent la sécurité sociale.
Alors, s'ils sont noirs, ils ne payent pas la sécurité sociale.
Non, s'ils sont noirs, non.
Mais souvent, les personnes qui font l'objet d'une OQTF étaient en situation de travail au moment où on leur signifie l'OQTF.
C'est ça. Oui.
Donc, elles vont continuer à travailler. Leur employeur va faire des bulletins de salaire et va cotiser à la sécurité sociale, à la retraite, à l'assurance chômage, etc., dont elles ne pourront pas bénéficier. Mais elles vont quand même cotiser. Et ces personnes vont pouvoir déclarer leurs impôts, payer des impôts si elles ont des revenus suffisants pour payer des impôts. Mais en revanche, elles vont avoir aucune ressource si, par exemple, leur employeur leur fait un mauvais cas, si leur propriétaire ne remplit pas ses obligations de propriétaire, elles n'ont aucune possibilité de se défendre, puisqu'aller devant un tribunal, ça ne leur est pas possible, elles ne sont pas légalement sur le territoire français.
On a un autre exemple sur Villefranche-de-Rouergue, d'une OQTF qui a été prononcée sur une personne étrangère qui travaillait, qui avait des revenus, mais plus de titre de séjour, non ? C'était le cas que tu disais. Mais il avait acheté une maison, il a retapé sa maison.
Ah oui, oui d'accord. Oui.
Dans Villefranche-de-Rouergue.
Oui. Donc, voilà. Les situations que vous décrivez, elles ne sont pas seulement extérieures au département. Il y en a ici, il y en a partout. Voilà. Pour avancer un peu, en quoi ce genre de situation est révélatrice de. Aussi de ce que la Ligue des droits de l'homme peut faire. Votre rôle, c'est quoi dans l'affaire, par exemple ? C'est dénoncer ce qui se passe ? Et qu'est-ce que vous faites sur ce sujet, par exemple, des OQTF ?
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Notre rôle, il est triple.
Oui, on va le redire. Hein, c'est important. Oui.
On va le redire. Hein, c'est d'une part, faire respecter la loi pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que quand il y a souvent des OQTF qui sont aberrantes juridiquement. Donc ça va être faire respecter la loi telle qu'elle est.
Et faire... donc, par exemple, saisir un avocat.
Saisir un avocat, accompagner la personne pour qu'elle fasse valoir ses droits, faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses droits et qu'elle puisse retrouver des droits, ne pas se retrouver en situation régulière, sachant qu'elle n'a rien fait pour ne pas y être. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est œuvrer pour que les choses changent au niveau légal, c'est-à-dire qu'on améliore la législation. Ça, c'est du travail de plus long terme, mais c'est du travail que fait principalement la LDH au niveau national. C'est travailler auprès des pouvoirs publics pour faire du plaidoyer, pour dire mais vous pouvez pas continuer à fabriquer des clandestins et leur reprocher ensuite d'être des clandestins.
C'est ça. Vous intervenez par exemple auprès des députés où se situe votre action auprès
on
du gouvernement.
On intervient auprès des députés, des sénateurs. On écrit aux députés, aux sénateurs. On les rencontre et tout ça au niveau à tous les niveaux nationaux. Et puis on demande et la NLDH fait des courriers, fait des demandes d'audition sur les commissions parlementaires pour faire valoir nos positions qui sont pas des positions de défense systématique et de dire non, il faut pas d'OQTF. Non, c'est la chose qu'on défend. Effectivement, une personne par exemple un assassin, on va pas dire non, il faut absolument qu'il reste sur le territoire français. C'est pas ça la question. La question, c'est de dire arrêtons de faire des quotas d'OQTF qui mènent à des décisions complètement absurdes qui brisent des vies. Qui brise des vies concrètes et plus que la vie de la personne qui est sous OQTF, parce que c'est tout son environnement.
C'est ça.
C'est son employeur, c'est sa famille, ça peut être son quartier aussi qui se retrouve en situation d'incompréhension et de déstabilisation. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On intervient à trois niveaux. Au niveau de la personne. Et puis on intervient aussi pour de la sensibilisation, ce qu'on est en train de faire là en ce moment.
Le troisième volet dont vous parliez.
Le troisième volet.
Et qu'on est effectivement en train de faire.
C'est ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de faire comprendre au grand public et aux personnes qui sont pas trop au courant du truc que OQTF, c'est pas un crime. Ça veut pas dire que la personne a quelque chose à se reprocher.
Et qu'on a tous à y perdre. Et ça, c'est important.
C'est ça. D'où l'intérêt d'avancer pour que le droit soit appliqué et que le droit évolue. Merci pour cette intervention. On va faire une nouvelle pause musicale avant de s'approcher de la fin de notre émission. Et là, je vais vous annoncer cette nouvelle rubrique. Après la pause musicale, Salif Keita, La Différence.
Je suis un noir. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Mmh.
sous un blanc. Mon sang est noir et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix.
Nous approchons de la fin de cette émission. La fin de cette émission, cette première émission Carnet solidaire avec la Ligue des droits de l'homme. Et je vous ai annoncé une rubrique qui sera nouvelle et qui, j'espère, va devenir un rendez-vous régulier. Donc c'est le billet d'humeur, l'humeur de Dominique, on va l'appeler. Dominique est à notre antenne pour la Ligue des droits de l'homme, mais qui a plusieurs casquettes. À toi la parole, Dominique.
Bonjour à tous et à toutes. Après quelques années de silence, me voici de nouveau au micro de CFM Radio pour cette nouvelle et passionnante aventure avec Jean-Paul, les carnets solidaires. Tous les mois, je tenterai d'amener un autre regard, décalé, j'espère porteur d'interrogations multiples pour nous tous. Mon objectif, c'est d'apporter des outils ou de la matière pour déclencher chez nous tous de la réflexion, de la réaction, éventuellement de l'action. Et pourquoi pas un jour, un dialogue ouvert, franc et libre. Libre. Voilà un mot qui me plaît beaucoup, qui m'inspire beaucoup, et pourquoi pas donc débuter ces nouveaux billets d'humeur par ce mot « liberté ». La liberté, sous toutes ses formes, est un des trois piliers de notre France qui sont inscrits sur le fronton de nos bâtiments publics, nos mairies, nos écoles publiques et dans la Constitution. Mais la liberté, cela veut dire quoi ? Wikipédia nous dit, de façon générale, la liberté vient du latin libertas, État de l'homme libre, dérivé de liber, homme libre, c'est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. J'ai choisi cette définition car je la trouve plus générale et à la fois très individuelle. En effet, nous entendons souvent les uns et les autres dire « on n'est pas libre parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut ». Or, et c'est une grande partie du débat que je voudrais ouvrir ici, vouloir être libre implique forcément en être responsable. Cela, pour moi, veut dire en assumer les conséquences. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir, pour ne citer que celle-ci pour le moment, implique que nous faisons partie d'un collectif, d'un pays, d'une société. Les lois sont là pour organiser la liberté de tous et de chacun, pour organiser les règles de notre société. Donc, normalement, la loi restreint, on préfère dire encadre, notre liberté individuelle au profit, théoriquement, de la majorité des membres de notre société. Pour le dire autrement, avoir des droits implique de respecter des devoirs. Pour prendre un exemple simple, avoir le droit de rouler en toute liberté en France implique plusieurs devoirs. D'abord, celui d'avoir le permis, ce qui atteste que j'ai appris à conduire un véhicule et que j'ai appris les règles que m'impose la loi, puis pour une vie organisée de notre société. Ensuite, je dois respecter les règles fixées par les lois et règlements sous peine d'être poursuivi. Et surtout, de mettre en danger la vie des autres. Si, par exemple, je décide de rouler à gauche parce que rouler à droite restreint ma liberté. Cet exemple est très simple. Certains diront trop simple. Mais il me semble parlant. Il met en valeur le fait que les lois et règlements sont là d'abord pour organiser la vie en société. Si nous voulons une société organisée et d'hommes libres, il faut s'en donner les moyens, soit par la coercition, soit par une coopération libre et volontaire entre individus. Cette dernière proposition est la définition donnée pour le libertarisme. Cela a donné les dérives de ceux que nous appelons régulièrement les libertariens. Les exemples les plus frappants actuellement sont, aux États-Unis, les trumpistes. Les libertariens sont des libéraux radicaux opposés à l'État dans sa forme contemporaine. Pour eux, les pouvoirs de l'État devraient être extrêmement restreints, on parle même de minarchisme, ou même supprimé, c'est l'anarcho-capitalisme. Contrairement à l'idée libertaire, les libertariens ne sont pas favorables à une société gérée en commun, mais à une société où les interactions entre les individus découlent de contrats, librement consentis, ça c'est autre chose, conformément au droit naturel et à l'axiome de non-agression. En clair, c'est pour moi la loi du plus fort, de celui qui pourra imposer le plus de choses à son avantage. Je suis, pour ma part, totalement opposé à cette idéologie pour de nombreuses raisons. La première raison est que nous vivons dans une société, nous sommes naturellement des animaux sociaux qui ont besoin pour vivre de s'organiser collectivement. Et pour moi, on reconnaît une société humaine aux soins qu'elle porte, en particulier aux plus faibles et aux plus démunis. Ce n'est pas que pour des raisons humanistes ou humanitaires, mais bien aussi, certains diraient surtout, parce que sinon, nous affaiblissons notre société au profit d'une petite minorité. À l'inverse, faire que les plus faibles soient soutenus correctement préserve des ressources, comme des forces de travail, de réflexion, de bien-être des autres, qui peuvent donc penser que quand viendra leur tour d'être en difficulté, ils seront aidés. Cette motivation est aussi réelle, mais tout cela implique une réelle solidarité entre les individus. Nous avons vu aujourd'hui dans cette émission des exemples, je parle des OQTF, qui affaiblissent cette réalité et ce sentiment de pouvoir être protégé. Ce biais d'humeur est trop peu développé, trop rapide sans doute, mais j'espère qu'il pourra nous apporter un regard autre et nous amener à réfléchir sur ce mot « liberté ». La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous dis au revoir aujourd'hui et au mois prochain.
Merci Dominique pour ce premier billet d'humeur à méditer par chacun, chacune d'entre nous. Voilà, je pense vraiment qu'il nous invite à une réflexion profonde sur le sens que nous donnons aux actions dans notre société et au mot solidarité. Voilà, tu as parlé de liberté dans ton premier billet. J'y associe le mot de solidarité et je repense tout à l'heure à l'exemple apporté par votre vice-présidente nationale avec Robinson Crusoe et vendredi, l'esprit de solidarité qui doit régner et que la Ligue des droits de l'homme fait vivre. Merci, cette émission s'achève bientôt. Merci Diane, merci Dominique. Vous pouvez la réécouter, cette émission, sur le podcast de CFM Radio. CFM Radio, hop, et voici que j'ai oublié l'intitulé du site cfmradio.fr, il me semble. Voilà, vous m'excuserez pour cette première émission. Voilà. En tout cas, vous pourrez la réécouter de façon libre et méditer encore une fois les propos sages de Dominique. Voilà. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de Carnet Solidaire. Et vous dis à toutes et tous, prenez soin de vous et restez, surtout, restez solidaires. Merci et au revoir.
Au revoir et merci.